Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel. 2 heures de plus ici à Paris. C'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Kantner. Bonjour à toutes et à tous. La date du référendum constitutionnel enfin dévoilée en Guinée-Conakry. Le général Mamadi Doumbouya le fixe au 21 septembre prochain. Au Niger, la junte annonce la libération de 58 détenus politiques, des militaires et d'anciens ministres qui sont graciés conformément aux recommandations des assises nationales. L'Algérie abat un drone de l'armée malienne. Elle affirme qu'il survolait son territoire du côté de Tinzawaten. Il était du côté malien de la frontière, assure-t-on à Bamako. Et puis Donald Trump désigne un conseiller Afrique. Il s'agit de Massad Boulos, un homme d'affaires libano-américain qui était déjà conseiller sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Ses fonctions sont élargies. On commence cette édition d'Afrique Midi au Sénégal où une page douloureuse de l'histoire récente se rouvre aujourd'hui. Celle des violences commises lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024 et qui ont fait au moins 65 morts. Après l'adoption d'une loi d'amnistie générale controversée il y a un an sous la présidence de Macky Sall, la nouvelle Assemblée nationale se penche aujourd'hui sur un projet de révision de cette loi. Il s'agit de permettre que les crimes de sang commis durant cette période puissent être jugés. Léa Lisa Westerhoff, on vous retrouve en direct de l'Assemblée nationale à Dakar. La loi d'amnistie avait divisé, mais le projet de cette loi interprétative proposée par le PASTEF au pouvoir divise à son tour.
Oui, l'ambiance est électrique ici à l'Assemblée nationale. Dès le début de la plénière, deux députés de l'opposition ont demandé le report de l'examen de ce projet de loi. Idem pour une vingtaine d'associations de la société civile hier qui demandent plus de temps pour obtenir un consensus sur la façon de garantir une justice équitable. Report rejeté ici par la majorité des parlementaires. Les débats ont donc commencé. Il y a quelques minutes, un député a listé le nom des 65 victimes au moins tuées lors des manifestations de l'opposition entre février 2021 et 2024, dont 51 par balle. Des sanglots ont résonné dans la salle. C'est une page douloureuse, vous le disiez, de l'histoire du Sénégal qui est rouverte ici avec ce projet d'interprétation de la loi d'amnistie.
Mais concrètement, en quoi consiste ce projet d'interprétation de la loi d'amnistie ?
Alors la révision proposée par le PASTEF, le parti au pouvoir, vise à exclure les crimes graves du champ d'application d'amnistie. Si le texte est adopté, les accusations d'assassinat, de meurtre, de torture et de traitement inhumain ne bénéficieront plus de l'annulation des poursuites, même s'ils ont été commis pendant les manifestations entre 2021 et 2024. Pour les défenseurs du projet de loi, cet ajout va permettre aux 65 familles des personnes tuées pendant ces manifestations de rouvrir une procédure judiciaire, d'obtenir justice et réparation, puisque le projet de loi propose également l'indemnisation de l'ensemble des victimes physiques et morales qui seront identifiées. Ce qui pose problème à certains, c'est que restent bénéficiaires de l'amnistie les personnes qui ont commis des dégâts matériels, brûlés un bus ou autre dans le cadre de ces manifestations. Les opposants au projet de loi s'inquiètent de ce fait d'un deux poids deux mesures, d'une justice inéquitable qui reviendrait à protéger les manifestants en somme et à viser les forces de l'ordre qui pourront désormais être jugé pour les morts. 77 députés ont demandé à prendre la parole. Les débats promettent donc d'être vifs et longs ici à l'Assemblée où le dispositif de sécurité a été renforcé, Nicolas.
Léa Lisa Westerhoff en direct de l'Assemblée nationale à Dakar. En Guinée, le président Doumbouya avait annoncé dans ses vœux de nouvel an que 2025 serait une année électorale cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. Eh bien, la date du référendum constitutionnel vient d'être dévoilée. Le général Doumbouya fixe la tenue du scrutin au 21 septembre prochain et au même moment, Sidi Yansané, le gouvernement reçoit un premier lot de matériel électoral.
Oui Nicolas, juste avant l'annonce de la date du référendum au journal télévisé hier soir, un long reportage d'une quinzaine de minutes montrait la cérémonie de réception des 3000 premiers kits biométriques qui serviront à enregistrer les citoyens dès l'âge de 10 ans. La semaine dernière, la primature affirmait à RFI que cette campagne d'enrôlement commencera le 15 avril, qu'elle va durer un mois et donnera naissance au registre national des personnes physiques. Et enfin, c'est de ce registre que sera tiré le nouveau fichier électoral. Hier à Conakry, le ministre de l'administration du territoire, le général Ibrahim Khalil Kondé, chargé d'organiser les scrutins à venir, a promis que la tenue des élections cette année était certaine, référence à l'engagement initial et non tenu du président Mamadi Doumbouya de rendre le pouvoir aux civils avant la fin d'année dernière. Mais il subsiste quelques flous dans la confection même du fichier électoral. Le gouvernement répétait encore hier que ce fichier fichier sera tiré du recensement à vocation d'état civil, le fameux RAVEC. Or, ce dernier est suspendu depuis plus d'un mois et n'a pas dépassé les frontières de la capitale Conakry. Information révélée par RFI et confirmée par le Premier ministre Bahouri dans une interview au magazine Jeune Afrique.
Au Niger, l'annonce a fait hier soir l'ouverture du journal de la télévision nationale. 58 personnes, des militaires et d'anciens ministres, ont été graciés. Leur libération sont en cours, Guillaume Thibault.
C'était l'une des recommandations des assises de février dernier et c'est ainsi que la junte a justifié ses grâces. Dans le communiqué du gouvernement, il est indiqué « Ces personnes bénéficient d'une remise en liberté, d'une remise totale de peine, conformément aux recommandations des assises nationales pour la refondation. 42 militaires et 16 civils sont donc concernés, notamment 4 anciens ministres intimes de la famille politique de l'ex-président Bazoum, Kalamou Tari, ancien ministre de la Défense, ses homologues aux finances et à l'énergie, Ahmed Jidou et Ibrahim Yakoubou, et Mahaman Sani Issoufou, dit Abba, l'ex-ministre du pétrole et fils de l'ancien chef de l'État Mahamadou Issoufou, qui a lui-même participé aux assises. Foumakoy Gado, l'ancien président du parti au pouvoir, est également sur la liste. Parmi les militaires graciés, certains étaient détenus au secret depuis le putsch de juillet 2023. Des observateurs de la vie politique évoquent un début de décrispation, même si l'ex-président Mohamed Bazoum, mais également sa femme et le leader de la société civile, Moussa Tchangari, n'ont pas été graciés par le général Tchani.
Au Burkina, les services de sécurité ont publié hier une liste de 32 noms et portraits de personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Un avis de recherche où figurent bel et bien des djihadistes, mais aussi, et c'est plus surprenant, Frédéric Gara, des journalistes ou des hommes politiques.
Oui, sur la page Facebook du ministère de la Sécurité, on voit un trombinoscope, une liste de noms assortie de photos. Pêle-mêle s'y trouvent des leaders djihadistes comme Jafar Diko, chef du groupe Ansour al-Islam, ou bien Amadou Ndiko, des lanceurs d'alerte comme Naïm Touré ou Aminata Racho, ou encore l'ex-maire de Dori, Ahmed Aziz Diallo, des ennemis de l'intérieur ou de l'extérieur, si l'on en croit le chef de la junte militaire, Ibrahim Traoré, le capitaine Traoré, qui s'exprimait hier lors de la levée des couleurs du Faso.
Quant à la masse populaire, j'inviterai les gens donc à la vigilance, parce que aujourd'hui, plus que jamais, les apatrides, les ennemis de la nation, sont très actifs. Nous les attendons de pied ferme. Et je tiens à le dire, nous serons impitoyables.
Parmi les hommes et les femmes suspectés de complots contre l'État ou d'activités terroristes, le journaliste exilé, ancien président de la commission électorale, Ahmed Newton Barry.
L'objectif qui est visé, c'est de nous infamer au point de nous faire taire. Malheureusement, on aurait pu dire Tartuffe, parce que effectivement, on ne peut pas avoir aujourd'hui près de 100 soldats tués. Une dizaine de camps militaires investis par des terroristes et puis prétendre que tout va bien. C'est une politique d'effet d'annonce, de fuite en avant.
La publication de cette liste et ces accusations de complot ne sont sans doute pas le fruit du hasard. Ces derniers jours, les attaques meurtrières comme celle du camp militaire de Diapaga et les arrestations de civils comme plusieurs membres du mouvement Sens se sont multipliées au Faso.
L'Algérie a abattu un drone opéré par l'armée malienne. Cela s'est passé dans la nuit de lundi à mardi, à la frontière entre les deux pays. Les FAMA disent que cet aéronef s'est écrasé en territoire malien, à proximité de Tinzawaten, dans la région de Kidal. Mais le ministère algérien de la Défense, lui, affirme, David Bachet, que le drone aurait pénétré dans son espace aérien national.
2 kilomètres, selon le ministère algérien de la Défense, c'est la distance parcourue par ce drone de reconnaissance armée à l'intérieur du territoire algérien. Le communiqué officiel confirme que c'est bien l'armée algérienne qui a abattu l'appareil pour préserver les frontières nationales de toute menace. Bamako n'a pas réagi à cette revendication. On cherche à comprendre ce qui s'est passé, indique une source sécuritaire malienne qui précise que le drone s'est écrasé du côté malien de la frontière, ce que confirment plusieurs sources locales, ajoutant que le drone peut avoir été touché côté algérien et être tombé côté malien, Tinzawaten se trouvant véritablement sur la frontière. Dans son communiqué, l'armée malienne explique que ce drone était en mission ordinaire de surveillance du territoire et qu'une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier les causes et déterminer les responsabilités éventuelles.
Alors, à peine 24 heures plus tard, la nuit dernière, l'armée malienne a mené une nouvelle opération dans cette même zone de Tinzawaten.
Oui, l'état-major indique avoir mené une frappe aérienne contre des terroristes armés à 2 km de la ligne frontalière. De nombreuses sources locales, des rebelles indépendantistes du FLA, mais aussi des civils non membres du FLA, assurent que ce sont des orpailleurs qui ont été tués et avancent un bilan d'au moins 6 morts civils, majoritairement des orpailleurs nigériens. Cette dernière frappe montre en tout cas que l'armée malienne reste déterminée à mener des actions au plus près de la frontière algérienne. Quant à la destruction de son drone, de nombreux observateurs avertis estiment qu'elle pourrait créer une énième brouille diplomatique entre les deux pays, déjà plus en froid que jamais.
Au Mali, on apprend que le préfet d'Ansongo a été enlevé ce matin par des hommes armés. Information transmise et confirmée à RFI par plusieurs sources locales. Ahmed Ag Aklini avait quitté Ansongo pour Gao dans le nord lorsque son véhicule a été intercepté par des assaillants qui ont tiré sur la voiture, libéré le chauffeur et sont repartis avec le préfet. Pas de revendication à ce stade. La zone est dominée par l'État islamique au Sahel, mais le groupe djihadiste rival, le JNIM, y est également présent. La crise entre la France et l'Algérie serait-elle en voie d'apaisement? Après un échange téléphonique présenté comme fructueux lundi entre les présidents Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune, les travaux se poursuivent. Avant la visite ce week-end à Alger du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, Lisa Fabian, il s'agira de concrétiser la reprise du dialogue.
La visite de Jean-Noël Barrot à Alger permettra d'incarner et de préciser la feuille de route énoncée dans le communiqué conjoint publié lundi soir par la présidence française et la présidence algérienne. Il s'agit d'une étape essentielle pour reconstruire une relation mise à mal après plus de 8 mois de tensions entre les deux pays. La question mémorielle est l'un des sujets à l'ordre du jour avec la reprise annoncée des travaux de la commission mixte des historiens qui travaillent sur la conquête coloniale de la France en Algérie. Le volet économique sera également abordé puisque la brouille entre Alger et Paris a entraîné une baisse drastique des exportations agricoles françaises et qu'elle a des conséquences sur les investissements français en Algérie. Le communiqué conjoint annonçait encore la reprise de la coopération dans le domaine sécuritaire et sur les questions migratoires. Même si la diplomatie française reste très prudente sur le sujet, le sort de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal pourrait aussi être évoqué dans le cadre de ce rapprochement, alors qu'on apprenait ce matin que celui-ci a fait appel de sa condamnation à 5 ans d'emprisonnement en Algérie. Certains observateurs avancent l'hypothèse d'une grâce rapide qui pourrait peut-être intervenir autour de la visite du ministre des Affaires étrangères français en Algérie.
Il est 14h43 à Paris.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, Donald Trump élargit les fonctions de son conseiller pour les pays arabes à l'Afrique. Il s'agit de Massa Debboulos, un homme d'affaires libano-américain. Première mission dès demain en République démocratique du Congo et au Rwanda. Et puis les sports du football avec la Coupe de la Confédération, les quarts de finale aller se jouent cet après-midi. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mercredi, le nouveau prix de kilo du cacao Borchan en Côte d'Ivoire fixé à 2200 francs CFA. Le ministre ivoirien de l'Agriculture l'a annoncé à la mi-journée à l'occasion du lancement officiel de la campagne intermédiaire. Il s'agit d'un tarif record, 400 francs CFA de plus par rapport à la campagne principale. Donald Trump désigne un conseiller Afrique. Il s'agit de Massa Debboulos, un homme d'affaires libano-américain qui était déjà conseiller sur le Moyen-Orient et les pays arabes. Ses fonctions sont élargies. Longtemps discret, ce mania de l'automobile basé au Nigeria connaît une ascension express. Porté par ses réseaux et ses liens familiaux, il est élu père du mari de Tiffany Trump, l'une des filles du président américain, Christina Okello. Qui est Massa Debboulos?
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Écoutez, Massa Debboulos est né au Liban dans une famille grecque orthodoxe bien connue, originaire d'un village producteur d'huile d'olive dans le nord du pays. Après des études en administration des affaires au Texas, il s'installe en Afrique de l'Ouest et prend la tête de SCOA Nigeria, une entreprise qui vend, loue et entretient des véhicules. C'est un homme d'affaires discret, tellement discret que son profil public ne colle pas toujours à la réalité. Debboulos est souvent présenté comme un magnat milliardaire, mais selon le New York Times, Times, son entreprise, n'a généré que 66 000 dollars de bénéfices l'an dernier. Sa fortune viendrait surtout de son épouse, héritière d'un empire actif en Afrique centrale et son influence à Washington aussi. Il est le beau-père, comme vous venez de dire, de Tiffany Trump, l'une des filles du président américain. Déjà conseiller de Donald Trump pour les pays arabes, il a récemment servi d'intermédiaire entre Trump et Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Alors pourquoi a-t-il été nommé? C'est surtout pour son carnet d'adresses. C'est Massad Boulos qui a aidé Trump à séduire l'électorat arabo-américain lors des dernières élections. Un atout politique selon ses proches, mais une nomination qui, pour ses détracteurs, doit davantage aux liens familiaux qu'à l'expertise.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Massad Boulos entame demain une tournée en Afrique centrale, quatre pays, dont la République démocratique du Congo. Objectif, selon le département d'État américain, faire progresser les efforts pour une paix durable dans l'est de la RDC et promouvoir les investissements du secteur privé américain dans la région. On ne sait pas s'il y a un rapport ou pas avec cette visite. En tout cas, trois ressortissants américains condamnés à mort lors du procès du coup d'État raté du 19 mai 2024 à Kinshasa voient leur peine commuée en prison à vie. Pauline Azidi, une grâce présidentielle leur a été accordée à la demande du ministère public.
Oui, les ordonnances officielles ont été lues hier soir par la porte-parole du président Tshisekedi à la télévision. Les trois Américains avaient été condamnés à la peine capitale lors du premier procès, peine confirmée en appel le 27 janvier. Comme la loi l'y oblige, le ministère public avait donc demandé une grâce accordée par le président de la République. Décision désormais irrévocable selon l'ordonnance. C'est important, cette modification de peine, puisque la RDC, qui n'exécutait plus ses condamnés depuis 20 ans, a levé son moratoire il y a un an. Désormais, tous les condamnés à la peine capitale sont exécutables, même ceux qui ont été condamnés pendant le moratoire, s'il n'y a pas eu d'acte officiel posé par la suite, ce qui n'est pas systématique. Et avec cette ordonnance, Marcel Malanga, Tyler Christian Thompson et Benjamin Zalman peuvent désormais demander leur extradition aux États-Unis pour y purger leur peine.
Oui, ces Américains avaient été condamnés pour leur participation à ce qu'on a appelé le coup d'État manqué lorsqu'un commando armé avait attaqué la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe, puis le palais de la Nation, siège du pouvoir. Mais d'autres étrangers ont aussi été condamnés dans ce dossier.
Un expert militaire belge, Jean-Jacques Wando, qui avant son arrestation en marge de ces événements, il n'était pas présent sur les lieux de l'attaque, collaborait avec les renseignements congolais. Sa peine de mort a aussi été confirmée en appel, ce qui avait valu un coup de froid diplomatique entre la RDC et la Belgique. Il a finalement été libéré le 4 février, sans explication officielle. Des sources diplomatiques évoquaient alors des raisons médicales. Pendant le procès, on avait aussi découvert qu'il y avait un ressortissant canadien et un britannique parmi les accusés. Mais il n'y a pas d'informations sur leur cas actuellement.
Pauline Azidi, correspondante de RFI à Kinshasa, au Soudan du Sud. Voilà une semaine que le vice-président Riek Machar a été placé en résidence surveillée par les forces de sécurité du président Salva Kiir. Depuis, les appels à sa libération et au retour au dialogue afin de sauver l'accord de paix de 2018 se sont multipliés. L'IGAD, le bloc régional de la Corne de l'Afrique, a déjà dépêché un émissaire, le Kenyan Raila Odinga. Aujourd'hui, c'est l'Union africaine qui envoie une délégation de haut niveau emmenée par Domitien Ndayizeye, l'ancien président du Burundi, au nom du groupe des sages de l'UA. Florence Mietto.
La médiation de l'Union africaine parviendra-t-elle à briser le blocage politique en cours à Djouba? C'est l'espoir de Joram Biswaro, ambassadeur de l'Union africaine au Soudan du Sud. Joint par RFI, il affirme que la visite du groupe des sages est, je cite, « une mission de solidarité avec le peuple du Soudan du Sud pour voir comment la crise peut être désamorcée ». La tâche de la délégation de l'Union africaine s'avère difficile. Vendredi 28 mars, Raila Odinga n'avait en effet pas eu la permission de rencontrer Riek Machar. L'ambassadeur Joram Biswaro explique que l'intention du groupe des sages est bel et bien de, je cite, « s'adresser à tout le monde, au président, au premier vice-président, aux autres vice-présidents et partis politiques, ainsi qu'aux églises et à la société civile, afin que le Soudan du Sud émerge de cette crise ». Créé en 2007, le groupe des sages a pour but d'appuyer les efforts du Conseil Paix et Sécurité de l'Union africaine, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits. Conseil Paix et Sécurité qui a appelé hier à la libération libération immédiate et sans condition du vice-président Riek Machar. Florence Mietto, Djouba, RFI.
Les sports du football, la semaine des Coupes d'Afrique de clubs se poursuit avec la Coupe de la Confédération, quart de finale aller, tous disputés cet après-midi. La SEC d'Abidjan affronte la Renaissance de Berkane, un adversaire marocain en pleine forme, que la SEC entend bien toutefois écarter. À Abidjan, Molamine Sissavane.
On est content de retrouver le plateau de la compétition africaine.
Content pour ses quarts de finale, mais conscient des qualités de Berkane cette saison. Le coach de la SEC, Julien Chevalier, l'avoue, mais qu'à cela ne tienne, il ne doute pas non plus de son effectif et veut aller encore plus loin.
Si on se qualifie pas à ce premier tour, tout s'arrête, mais si on se qualifie, on a la possibilité d'aller gagner le trophée. Donc on se concentre d'abord sur cette première rencontre. Si on pouvait avoir la chance de creuser énormément l'écart et d'être à l'abri avant le match retour, ça serait le scénario idéal, mais il va falloir faire sur le terrain tout ce qu'on peut pour écrire le meilleur scénario possible.
Il y a deux saisons, la SEC était en demi-finale de la Coupe de la Confédération, puis l'année dernière en quart de finale de la Ligue des Champions. Pour le journaliste sportif Yacoub Traoré, ce retour en Coupe de la Confédération devrait aboutir sur un bien meilleur classement.
Quand la SEC Mimosa revient, logiquement le club devrait viser la finale.
Les jaunes et noirs qui ont dû attendre les derniers instants de la phase de poule pour valider leur ticket et qui étaient en difficulté en championnat ont depuis retrouvé une bonne dynamique. Mo Lamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Match à suivre à 16h, temps universel. 14h51 à Paris, Anne Cantner, les grands titres de ce 2 avril.
Le projet du gouvernement israélien de s'emparer de vastes zones dans la bande de Gaza où l'armée mène des bombardements quotidiens. L'un d'entre eux a visé un bâtiment des Nations Unies aujourd'hui et fait une trentaine de morts. Des opérations militaires sont aussi en cours dans plusieurs villes de Cisjordanie occupées. Et le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a choqué en se rendant aujourd'hui sur l'esplanade des mosquées. Troisième lieu saint de l'islam est situé dans la partie palestinienne de Jérusalem. Une deuxième journée de manœuvre militaire chinoise dans le détroit de Taïwan. Tous les objectifs ont été atteints, selon Pékin. Et puis, la menace de nouveaux droits de douane aux États-Unis. Ils doivent être annoncés tout à l'heure par Donald Trump. L'Union européenne ripostera avant la fin du mois d'avril, prévient le gouvernement français.
Nous vous proposons à présent un témoignage inédit, celui d'Amadou Ndiko, ancien président de la section jeunesse de Tabital Poulakou Mali, association communautaire Peul de défense des droits humains. Il a été détenu pendant 3 mois par la sécurité d'État malienne en dehors de toute procédure légale entre décembre 2023 et mars de l'an dernier. Alors que les personnes libérées ont consigne de se taire, lui a choisi l'exil et de parler. C'est en exclusivité pour RFI, au micro de David Bachet.
Amadou Ndiko, bonjour.
Bonjour.
Lorsque la sécurité d'État vous a enlevé, vous vous apprêtiez à lancer une nouvelle association internationale de jeunes de la communauté Peul. Est-ce que c'est pour ça que vous avez été détenu pendant 3 mois ?
Effectivement, j'étais en train d'organiser le premier congrès de la jeunesse Poulakou internationale. J'ai été enlevé à la veille même du congrès. Dans l'interrogatoire, il a posé la question pourquoi je voulais organiser ce congrès, si c'était pour déstabiliser la transition. Et aussi, comme je faisais beaucoup de dénonciations contre les exactions commises par les forces armées de sécurité contre les civils Peul, il y avait cela aussi. Et il m'accusait aussi directement d'être en complicité avec certains groupes armés terroristes.
Est-ce que vous pouvez nous raconter, pour commencer, les circonstances de votre enlèvement ?
Après avoir été convoqué le 14 à la direction de l'ANSE,
le 14 décembre 2023, à la sécurité d'État.
À la sécurité d'État, où ils m'ont intimidé et m'ont demandé de s'asseoir à la conférence de presse à la veille du congrès, aux environs de 0h. Je voulais rentrer chez moi et plusieurs véhicules, 4 m'ont intercepté et m'a bloqué la route. Ils étaient nombreux, mais en civil. Il est venu vers moi et il m'a fait entrer dans sa voiture et il a démarré. Il a demandé à celui qui était à côté de moi de mettre la cagoule.
Pendant ces 3 mois de détention, quelles étaient vos conditions, votre rythme de vie ?
Ils m'ont gardé dans une chambre annexe d'une maison. J'ai trouvé un matelas, des couvertures. Et il y a un autre dans une autre chambre que je n'ai jamais vu. J'étais très mal nourri. Je ne pouvais pas sortir de ma chambre. Je ne suis jamais sorti à part les 2 fois qu'ils voulaient m'interroger.
Et le reste du temps, on vous laissait dans votre chambre ?
J'étais dans ma chambre seul. Quand ils rentraient, je devais mettre la cagoule. Je ne voyais personne. Je n'ai jamais vu une personne étant là-bas. J'étais seul, séquestré, isolé. Pendant 3 mois, j'avais même le rêve de voir juste le soleil ou le ciel.
D'autres prisonniers de la sécurité d'État, une fois libérés, ont raconté à des proches ou à leurs avocats avoir subi des tortures, coups, décharges électriques, simulations de noyade. Heureusement, cela n'a pas été votre cas.
Heureusement, moi, je n'ai pas été torturé, je n'ai pas été frappé. Seulement, j'étais affamé et isolé, séquestré et loin de ma famille. C'était psychologique, ça me fatiguait parce que je ne voyais pas un être humain. J'avais juste envie de voir une personne en face de moi.
Comment se sont passées vos séances d'interrogatoire?
Quand ils venaient pour m'amener dans le salon d'interrogatoire, ils étaient trois. Quand ils tapaient à la porte, je devais mettre la cagoule, donc je ne pouvais plus les voir. Ils m'ont sorti de ma cellule, ils m'ont amené dans un petit salon où ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Ils sont sortis et ils m'ont laissé avec l'RCF qui devait m'interroger.
Et sur quoi est-ce que vous avez été interrogé?
Ils m'ont demandé pourquoi je voulais organiser ce congrès, pourquoi je suis avec Amadou Koufa. Moi, je suis
Amadou Koufa, le chef de la Katiba Massina du JNIM lié à Al-Qaïda.
Oui, exactement. Ils m'ont posé la question de savoir pourquoi moi je le représente à Bamako. J'ai été très surpris. J'ai dit comment moi je peux être le représentant de Koufa et être à Bamako. Ça ne corrobore pas.
Donc ils vous accusaient d'être un complice des groupes djihadistes.
Exactement. Ils m'accusaient d'être complice, en même temps être avec les puissances occidentales telles que la France. Et surtout, j'étais en contact avec la Radio France Internationale.
Donc vous avez aussi été interrogé sur vos liens avec des journalistes de RFI?
Bien sûr, ils m'ont demandé si j'étais en contact avec David Bachet, exactement. Heureusement, je n'étais pas en contact avec David Bachet. Je n'avais
pas encore.
Ils m'ont demandé pourquoi j'ai dénoncé les exactions commises par Wagner. Moi, j'ai dit je suis malien contre l'impunité, c'est pourquoi j'ai dénoncé.
Amadou Ndiko, au bout de 3 mois, vous avez finalement été relâché par la sécurité d'État. Pourquoi? Comment?
J'ai décidé de ne plus manger. Parce que j'étais fatigué, je ne savais pas pourquoi j'étais là. Je n'ai commis aucun crime. J'ai décidé de ne plus manger. Quand ils ont constaté ça, ils sont venus pour me dire que Amadou, si tu ne manges pas, on va te présenter à un juge. Tu seras à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et là-bas, c'est pas facile. J'ai dit, je préfère être là-bas parce qu'au moins, je vais prendre un avocat. Mes parents sauront où je suis. Donc, ils ont compris que ça va pas m'empêcher de continuer la grève de la faim. Le 11, c'était le premier jour du Ramadan. Ils ont toqué à la porte et ils m'ont demandé de prendre mes affaires. Je n'avais pas des affaires, je n'avais que mon boubou. Ils m'ont sorti et ils m'ont amené jusqu'à vers Bouziba.
Un quartier de Bamako.
Ils disent qu'aujourd'hui, on va te libérer, mais voici les conditions. Les conditions, c'est de collaborer, de ne pas dénoncer, de travailler avec eux.
Ils vous ont proposé de travailler pour la sécurité d'État.
Je n'ai pas accepté, c'est pourquoi j'ai décidé de partir, parce que je ne pouvais pas rester et ma vie était en danger.
Aujourd'hui, pourquoi tenez-vous à témoigner de ce qui vous est arrivé?
Parce que on voit que les enlèvements continuent de plus belle. Il faut que ça cesse, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça dans un pays de droit. S'ils te reprochent de quelque chose, il y a la justice.
Amadou Ndiko, merci.
Amadou Ndiko, témoignage recueilli par David Bachet, à écouter en intégralité sur notre site internet ou nos applications. Rubrique invité, onglet, grand invité Afrique. Du cinéma pour terminer Afrique Midi avec un film consacré à une grande figure de la lutte anticoloniale qui sort aujourd'hui sur les écrans français. Fanon, réalisé par Jean-Claude Barny. Il se centre sur le travail du psychiatre martiniquais, auteur des Damnés de la Terre, à l'hôpital de Blida, en pleine guerre d'indépendance algérienne. Elisabeth Le Quéré l'a vu en avant-première.
Monsieur Fanon, je travaille avec vous. On dit que vous ouvrez des brèches dans une psychiatrie coloniale complètement dépassée.
Il a transformé notre regard sur le racisme et la colonisation. En 1953, Frantz Fanon, un jeune psychiatre martiniquais, arrive à l'hôpital de Blida. Sa couleur de peau et ses méthodes novatrices lui valent l'hostilité de sa hiérarchie, mais l'admiration de ses collègues arabes et de leurs familles. Désentraver les fous, c'est du jamais vu. Dans l'Algérie des années 50, théâtre d'une guerre de libération sans pitié,
l'interlocuteur du colonisé est le gendarme ou le soldat.
Jean-Claude Barny filme la genèse d'un intellectuel et de son œuvre majeure, Les Damnés de la Terre, mais aussi son engagement politique auprès du FLN. Parfois étouffé sous le poids de la reconstitution historique, le film n'en est pas moins nécessaire, car il donne à entendre l'une des voix les plus vibrantes de la pensée anticolonialiste et antiraciste, une voix qui résonne aujourd'hui bien au-delà de son contexte historique.
Fanon, sorti ce mercredi en France. C'est la fin de cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Cécile Périllard. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Vous restez sur notre antenne. On se retrouve dans un tout petit peu plus d'une minute pour la dernière partie d'RFI Midi sur le continent américain. À tout de suite.
Vous souhaitez réécouter ce journal ? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
demain.
La sexologue de l'émission Noël Caillarcy répond en direct à vos questions.
Vendredi.
Émission Questions de femmes, comment gérer ses émotions?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Pourquoi RFI dit ça? Juliette Rangeval.
Les journalistes ressentent-ils la fatigue informationnelle? Mauvaises nouvelles, réseaux sociaux et écrans omniprésents, comment séparer vie privée et vie professionnelle? Quelle stratégie adopter pour éviter un impact trop fort sur la santé mentale?
Écoutez « Pourquoi RFI dit ça ?» avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.